BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
19h, la deuxième heure de Good Evening Business en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Dans notre émission ce soir, de quoi est-ce qu'on parle ? Bah, bien sûr, du gouvernement de Michel Barnier qui est plus proche que jamais de la sortie. Il y aura bien une motion de censure soumise au vote des députés mercredi ou jeudi. On va continuer d'en parler, bien sûr. Les conséquences sur le budget, sur la vie politique et puis sur les marchés. Vous allez voir qu'ils ont suivi tout ça de très très près aujourd'hui, évidemment. L'autre grand titre ce soir, évidemment, c'est les conséquences du départ de Carlos Tavares de la tête de Stellantis. L'action a perdu plus de 6% ce soir à la Bourse de Paris. Voilà les deux titres qu'on développe tout de suite dans le journal. Et avec nos experts qui reviennent avec nous dans un quart d'heure et qui sont là, bien sûr, jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, le gouvernement Michel Barnier devrait tomber dans les prochains jours. Comme prévu, LFI a déposé une motion de censure après que le Premier ministre ait dégainé un peu plus tôt. Comme prévu également, le 49-3 pour faire passer le budget de la Sécu. Écoutez Michel Barnier tout à l'heure.
Je crois que nous sommes parvenus désormais à un moment de vérité qui met chacun devant ses responsabilités. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes.
Voilà Michel Barnier qui prend ses propres responsabilités. Bonsoir Thomas Asportas.
Bonsoir Guillaume.
Et pourtant Michel Barnier, il a fait des concessions jusqu'au dernier moment pour essayer d'éviter d'en arriver là, Thomas.
Oui, et c'est très spectaculaire ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée, puisque si les députés suivent la consigne de vote de leur parti, alors Michel Barnier et son gouvernement seront tombés en 20 minutes. À 15h40, on vient de l'entendre, le Premier ministre enclenche la motion de censure pour faire le 49-3, pardon, pour faire adopter le budget. À 15h50, la France Insoumise annonce déposer une motion de censure contre le gouvernement. Et à 16h, le Rassemblement National annonce non seulement qu'il votera la motion de censure de la France Insoumise, mais qu'il déposera lui-même sa propre motion de censure. Ce qui veut dire que quand ces deux motions de censure seront examinées mercredi après-midi à l'Assemblée, le gouvernement de Michel Barnier, sauf un probable retournement de situation, va tomber malgré, vous l'avez dit, les gestes, les nombreux gestes et jusqu'au dernier moment de Michel Barnier pour tenter d'éviter cette censure. Ce matin même, Jordan Bardella disait qu'il fallait un miracle pour que le gouvernement ne tombe pas. À 13h15, on apprend que Matignon envoie un communiqué de presse qui indique que le gouvernement s'engage à ce qu'il n'y ait pas de déremboursement des médicaments en 2025. C'était une des lignes rouges du Rassemblement National. Ouais. Jeudi dernier, à un pacte PME, on y était, le Premier ministre avait annoncé finalement qu'il renonçait à surtaxer l'électricité. Et aujourd'hui même, cet après-midi au Sénat, lors de l'examen du budget cette fois, le gouvernement a accepté de réduire de 200 millions d'euros le budget de l'aide médicale d'État. Mais le RN avait une dernière demande, l'indexation de toutes les retraites sur l'inflation dès le 1er janvier. Le gouvernement n'a pas accédé à cette demande et le Rassemblement National est donc passé à l'acte. Il annonce qu'il va voter la censure et c'est donc un séisme politique qui se profile mercredi après-midi.
Qui se profile mercredi après-midi. Alors, est-ce que c'est confirmé mercredi après-midi ?
Jeudi, à partir de mercredi après-midi, puisque la motion de censure est examinée 48 heures après son dépôt.
Merci beaucoup, Thomas. On va dire un premier mot des marchés, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un petit peu de tension sur le spread, vous savez, l'écart de taux à 10 ans entre la France et l'Allemagne. Ce qu'on a vu aussi, c'est ce que nous disait l'intervenant de marché, c'est que l'État français a emprunté désormais plus cher que certaines grandes entreprises françaises. Et ça, c'est préoccupant. Écoutez, John Plassard de Mirabeau et compagnie.
Ça veut dire qu'un investisseur fait plus confiance à une société comme Airbus pour rembourser sa dette qu'à l'État français. Donc, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que ces groupes, eh bien, sont des multinationales et ils sont assez peu dépendants de leur marché domestique et bénéficient, comme on le sait, d'une exposition internationale. Alors que, bien évidemment, les OAT, eh bien, ils voient leur spread s'élargir, en fonction de cette crise de la dette. Alors ça nous rappelle quand même ce qui s'était passé en Italie en 2018, où vous aviez des entreprises qui avaient également des coûts d'emprunt inférieurs à ceux du gouvernement, et ça reflète bien évidemment une période d'instabilité politique qui devrait se poursuivre ces prochains jours, ces prochaines semaines.
Voilà, donc attention au signe indien, John Plassard, Mirabeau et compagnie aujourd'hui sur BFM Business. 19h06, la grosse actu entreprise du jour, bien sûr, c'est le départ anticipé, annoncé hier soir de Carlos Tavares de la tête de Stellantis avec effet immédiat. Bonsoir Justine Vassogne. Ça n'a pas plu au marché, le titre a perdu plus de 6% à la Bourse de Paris ce soir, Justine.
Sans doute parce que la décision a été très brutale. Elle a fait l'effet d'une bombe hier soir et il reste encore beaucoup de zones d'ombre. On savait, Carlos Tavares sur la sellette depuis plusieurs mois, à cause notamment de résultats catastrophiques en Amérique du Nord qui ont contraint Stellantis à réaliser un retentissant profit warning. Mais on pensait que Carlos Tavares avait sauvé sa peau pour aller jusqu'à la fin de son mandat. Il y a un mois, il avait annoncé prendre sa retraite à la fin de son mandat, donc en 2026. Il avait fait le ménage chez Stellantis en coupant de nombreuses têtes, notamment celle de sa directrice financière. Visiblement, ça n'a pas suffi. Ces dernières semaines, des points de vue différents sont apparus entre le conseil d'administration, les actionnaires et le directeur général du groupe, explique Henri de Castres, qui est membre du board et administrateur de Stellantis.
Et ce qu'Henri de Castres appelle publiquement des différences de points de vue, ce sont bien des désaccords stratégiques, on est d'accord, hein,
Oui, parce qu'en fait, depuis le profit warning, Carlos Tavares n'avait pas bougé sa stratégie d'un iota. Il fallait continuer de réduire les coûts, quitte à ronger l'os jusqu'à la moelle, continuer aussi à accélérer dans l'électrique, maintenir surtout cette date de 2035, une position que ne partageait plus, selon nos informations, John Elkann, le président de Stellantis, un partisan maintenant d'aller plaider à Bruxelles avec les autres constructeurs européens, dont Renault, pour plus de souplesse. Face à ces désaccords, un connaisseur du dossier nous explique que c'est Carlos Tavares lui-même qui a brusquement claqué la porte ce vendredi, à la surprise générale de son board. Carlos Tavares a compris qu'il allait vivre un cauchemar jusqu'à la fin de son mandat. Ce n'est pas un homme qui partage le pouvoir, nous dit cette même source. Il a senti aussi, Carlos Tavares, qu'il n'avait plus la reconnaissance de la famille Peugeot, actionnaire à hauteur de 7% tout de même de Stellantis. Dans un premier temps, c'est John Elkann, lui-même, le président et l'actionnaire majoritaire de Stellantis, qui va assurer l'intérim. Un nouveau directeur général sera désigné au cours du premier semestre 2025. Beaucoup de noms circulent, évidemment. Un nom en particulier, celui de Luca De Meo, l'actuel patron de Renault.
Et ça fait un moment que ce nom circule. Merci beaucoup Justine. On revient après 19h30, bien sûr, avec nos experts sur le cas Stellantis, bien sûr. Côté entreprise, côté auto, toujours. Vous savez que les grèves ont commencé comme prévu aujourd'hui chez Volkswagen pour protester contre les fermetures de sites envisagées par la direction. Sur le sol allemand, où l'entreprise compte quelques 300 000 salariés, à noter que ces grèves débutent à un peu moins de 3 mois des législatives dans le pays. Côté entreprise toujours, on a appris le départ aujourd'hui du directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, qui quitte le groupe après 30 ans de maison et quitte surtout un groupe qui a encore beaucoup de retard à rattraper dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis toute autre chose, pour terminer, on revient en France. On voulait vous montrer comment la gendarmerie nationale, elle aussi, se familiarise petit à petit avec la tech. On s'est rendu en fait sur une sorte de salon pro au cours duquel des entreprises sont venues présenter leurs innovations. Ça va de l'imprimante 3D jusqu'au kit de survie connecté pour les gendarmes. C'est très complet. Reportage Eva Sarayol.
Le capitaine Raphaël, officier innovation auprès de la gendarmerie maritime, cherche des solutions pour augmenter la sécurité de ses équipes lors des sauvetages en mer. Alors aujourd'hui, il a rendez-vous avec Dominique Dubreuc, représentante de Restube, qui propose des moyens de secours sous forme de petites pochettes.
Donc le produit se présente sous forme d'une petite pochette que l'on porte à la ceinture, que l'on déclenche soit manuellement à l'aide du sifflet ici, on tire sur la cordelette, soit il se déclenche tout seul.
Une fois déplié, la bouée peut permettre à 4 personnes de s'y accrocher. Dans l'attente des secours, le capitaine est conquis.
Je suis intimement convaincu du projet. Maintenant, je vais le proposer à mes chefs qui discuteront et s'en suivra un processus d'achat qui permettra, je l'espère, à court terme, de pouvoir doter nos unités de ce matériel.
Pour cette quatrième édition, ce sont 115 gendarmes de différents services qui ont rencontré 550 entreprises françaises et étrangères. Les éditions précédentes se sont conclues par plus de 2 millions d'euros de marchés signés.
Reportage d'Eva Sarayol pour BFM Business. 19h10, on va sur les marchés. Les marchés, on retrouve au dos de Karsulek. On a terminé en léger hausse ce soir à la Bourse de Paris.
Oui, on a évité de commencer la semaine dans le rouge. Pourtant, on y était dans l'après-midi après l'annonce du déclenchement du 49.3. Ça avait inquiété les investisseurs. Et finalement, ce qui a permis de sauver la face, ce sont notamment les valeurs du luxe avec une belle poussée notamment de Hermès, plus 4,7%, ou LVMH, plus 3%. Et d'ailleurs, les valeurs exportatrices dans leur ensemble, puisque Airbus est aussi poussé par la faiblesse de l'euro. Alors là, c'est dû à la news politique française, évidemment, mais aussi à Donald Trump qui soutient son dollar. On l'a vu ce week-end à travers un message aux États-Unis. Il promeut un dollar fort. Donc voilà pourquoi les valeurs exportatrices sont dans le haut du panier. Évidemment, on avait Stellantis qui pesait moins 6%, Carrefour ou encore les valeurs bancaires également à la baisse. Donc le CAC 40 qui finalement fait pâle figure à côté d'autres indices, notamment l'indice allemand qui a touché aujourd'hui un plus haut niveau, tout droit vers les 20 000 points le DAX.
On regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street. Bien sûr, c'est la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui perd 0,3%, 44 760 points. Le Nasdaq, de son côté, qui grappille 1%, 19 413 points. Tout ça, bien sûr, à la mi-séance. 19h12, nos experts arrivent dans un instant. Évidemment, on va largement reparler sur ce gouvernement Barnier. En sursis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on parlera un petit peu de Stellantis. Les marchés n'ont pas du tout apprécié le départ anticipé de Carlos Tavares aujourd'hui. Tout ça jusqu'à 20h, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, ils sont là comme tous les soirs, nos experts bien sûr pour refaire l'actu jusqu'à 20h. Nathalie Janson est avec nous, bonsoir Nathalie.
Bonsoir Guillaume.
Professeur à Neoma Business School, Jackie Isabello. Jackie, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact, Véronique Jérôme, bonsoir.
Bonsoir Guillaume, bonsoir
Polito,
à tous.
Polito, économiste et cofondatrice d'Electionscope. Et puis Lim Wong-Nok est avec nous, Lim, bonsoir également.
Bonsoir.
Économiste, ancien député européen. Bien, semblerait donc que les dés soient jetés. On va examiner a priori mercredi ou jeudi la motion de censure déposée par la gauche sur le gouvernement Barnier. Le RN la votera, Marine Le Pen l'a dit, nous la voterons parce que nous considérons que le gouvernement n'a pas fait assez de concessions sur ce budget de la Sécu notamment. Écoutez, Marine Le Pen.
Le gouvernement a prévu 30 à 40 milliards d'euros de taxes et impôts supplémentaires. Nous avons été extrêmement raisonnables dans les demandes que nous lui avons transféré au nom des Français, avec le mandat que nous a donné les Français, le mandat de protection en quelque sorte qu'ils nous ont accordé. Nous remplissons ce mandat, les demandes que nous faisions étaient des demandes particulièrement raisonnables et malgré cela, le gouvernement n'a accédé en réalité qu'à une seule des demandes que nous faisions, je le rappelle, à hauteur de 600 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, mais au regard du budget de la santé, c'est dérisoire.
Voilà, ça serait la première fois qu'un gouvernement chuterait sous une motion de censure depuis Georges Pompidou en 1962, ce qui, comme on dit, ne nous rajeunit pas. Bon, c'est plié. Emmanuel Le Chip, tout à l'heure, qui était un peu en mode fleur qui rêve, nous disait, mais attendez, il peut encore se passer des choses, peut-être.
Budget de 80,
mercredi
nous
prochain.
Des économistes, enfin, moi un peu moins que les autres, mais
ouais.
C'est bien qu'en 80 le budget avait été retoqué par le Conseil constitue, mais pour des questions.
Je parle de motion de censure, de gouvernement qui tourne sur une motion de censure.
Voilà, pour des questions techniques, ouais,
oui,
absolument.
Oui. Bon,
ben oui, mais c'est assez triste, d'autant plus que voilà, pour pas redire tout ce qui a été dit, je pense que les gens ont écouté pour des raisons qui sont des raisons purement politiciennes. Les gens qui sont proches de Marine Le Pen expliquent bien que le réquisitoire qui a été émis par les tribunaux dernièrement, eh bien, a fortement choqué Marine Le Pen et qu'elle a décidé de rentrer dans une guerre face aux institutions et qu'elle joue aujourd'hui, pour aller directement au point essentiel, la démission du président de la République et relancer une présidentielle. Ce qui est très loin des attentes des Français. Aujourd'hui sortait une étude que mène traditionnellement l'Ipsos sur les fractures et qui divise la France et on s'aperçoit que les Français sont un peu apeurés de tout, ils ont l'impression que la société est encore plus violente qu'il y a un siècle, ils ne croient plus en rien, enfin je veux dire, les peurs montent et ce n'est pas un Parlement déraisonnable qui va censurer un gouvernement à peine nommé, qui va rassurer les Français.
Véronique Jérôme, vous êtes d'accord avec cette vision? Marine Le Pen qui joue une présidentielle anticipée désormais, c'est ça pour vous son jeu?
Certainement, mais tout politique a en tête les prochaines élections et certainement pas les électeurs. Je crois qu'on infantilise les électeurs. On entend dire un peu tard d'ailleurs, moi je pense à la France, il faut éviter le chaos, mais c'est trop tard parce qu'on avait la menace de la dissolution, la menace de 49.3, la menace de voter la censure en cas de 49.3. 49.3, je vais y arriver, la menace. Donc, était une arme de dissuasion massive. Ouais. Là, on est passé pratiquement à l'arme de destruction massive. Donc, on va voir le chaos et on essaye finalement d'appeler à la raison. Alors, j'ai écouté le Premier ministre et son discours. J'ai bien aimé les éléments qu'il y avait dans son discours. Il a mis en avant le respect, l'écoute, la vérité, la transparence, mais tout cela, aujourd'hui, ne sert pas à grand-chose. On a l'impression que, comme disait Malraux, on fait, depuis 2500 ans, on fait des discours, mais au lieu de faire des réformes. Et là, on va avoir cette palinodie du politique, cette politique tango, on avance, on recule, on renonce. Et donc, finalement, si c'était pour en arriver là, il aurait fallu tenir bon.
Oui,
et
mais
dire, voilà, je ne céderai sur rien.
Bah, ce qu'a fait en partie Michel Barnier, vous considérez qu'il a trop fait de concessions jusqu'à présent?
Oui, quand même. Marine Le Pen voulait 4, elle a eu 3.
Elle a eu 3.
Et donc là, aujourd'hui, c'était presque inutile.
Exactement. Oui, mais aux yeux des marchés financiers, est-ce qu'on ne va pas retenir ça finalement? Il n'a pas cédé sur le totem des retraites, de la désindexation totale des retraites finalement.
Je ne sais pas si c'est ça qui fait vraiment la différence, honnêtement. Hein. Je pense qu'il a surtout...
Ce que je veux dire par là, c'est que les marchés ont suivi très près ce qui s'est passé aujourd'hui.
Oui.
Et ont réagi sur le spread franco-allemand. Mmh. Même l'annonce de l'abandon de la mesure sur le déremboursement des médicaments...
Il a été arbitré sur le marché obligataire,
Nathalie. Oui, voilà, c'est pour ça.
Oui, bien sûr que c'est arbitré par les marchés, parce que de toute façon, ils sont inquiets quand même sur la capacité de la France à mettre en œuvre des réformes. Enfin, c'est intégré par le marché maintenant depuis quand même quelques semaines. Mais on voit qu'effectivement, chaque concession va être enregistré comme étant un mauvais point du côté. En tout cas, on va aller préférer une autre dette que la nôtre. En fait, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, hein, parce que c'est pas tellement c'est surtout qu'on ne va, on va pas aller chercher la dette française, mais on va aller chercher d'autres dettes à la place de la nôtre. Et c'est ça qui est un peu préoccupant, puisque en effet on s'enfonce, ça veut dire que on aura quand même si on la place, on va la placer moyennement à des taux qui vont de toute façon se relever.
Et rappelons qu'on doit lever l'an prochain la bagatelle de 300 milliards d'euros sur les marchés. C'est une question que je pose à tout le monde. Lim va la subir en premier. Qu'est-ce qui vaut mieux? Un budget adopté mais sans grande économie ou pas de budget voté du tout d'ici le 31 décembre finalement? Quelle est la moins mauvaise des solutions pour vous, Lim?
Il y aura un budget. Celui de l'année dernière sera reconduit.
Oui. Avec des effets pervers, au passage. Hein.
Oui, celui-là était source d'effets ultra pervers, puisqu'il aurait cassé la croissance et il n'aurait même pas atteint l'objectif de 5% de déficit, tellement les recettes induites n'auraient pas été au rendez-vous. Et on aura encore critiqué le gouvernement pour insincérité du budget. Bon, mais au-delà de ça, moi je partage l'analyse de Jackie. Il y a un avant et après réquisitoire. L'avant réquisitoire, c'était la recherche d'une union des droites. Et donc, pour ça, pour parler comme Véronique, Marine Le Pen avait besoin de choisir l'électeur médian qui correspondait à une majorité qui lui aurait permis de passer avec une union des droites. Et donc, pour décrocher cet électeur médian, eh bien, il fallait donner des gages à l'électorat LR non ciotisé. Pour
que le préciser,
pour que la spectabilisation fasse que lors de la prochaine élection dans 3 ans, cet électorat-là se porte sur Marine Le Pen, notamment au second tour. Là, c'est fini. Maintenant, c'est terre brûlée. Mmh. Elle sait que au mois de mars, c'est cuit pour elle. Mmh. Et donc, ce qu'elle recherche, c'est une présidentielle anticipée. Et de ce point de vue-là,
le verdict de la justice, c'est le 31 mars.
Il y a une alliance. Il y a une alliance objective avec Mélenchon pour faire terre brûlée d'ici 3 mois, pour provoquer une démission du président de la République.
Terre brûlée pendant 3 mois, ça veut dire quoi? Il se passe quoi mercredi? Alors ça aussi, j'ai une question sans réponse.
Il nous reste quand même, de toute façon, tous les diplomates vous diront que tant que la cloche n'a pas sonné, il y a sans doute des choses à négocier. Et ces 2 jours...
Ah, donc vous croyez aussi que tout n'est pas écrit pour mercredi?
On n'est pas des spécialistes de la politique fiction ici. Je veux dire, c'est l'économie, quand on vend une entreprise, quand on rachète une entreprise, tant que le deal n'est pas signé,
tout est possible.
L'art de la négociation doit aller jusqu'au bout.
Vous avez vu la violence des termes employés par le RN ces dernières heures. Comment est-ce qu'on dit aujourd'hui « je vais voter la censure, quelle qu'en soit la provenance » et se dédire mercredi?
Vous connaissez l'expression de politique américaine, il faut faire spinner les choses, c'est-à-dire qu'on fait tourner les choses. Une information va chasser l'autre, une actualité va chasser l'autre. Et demain, s'ils arrivent à trouver un accord, ça va être très difficile. S'ils arrivaient à le trouver, ils plaideraient la responsabilité.
Mais
ça me paraît difficile.
La probabilité de ce scénario n'est pas très élevé.
On peut se dire quand même qu'il peut y avoir une dernière initiative de la part de quelqu'un qui...
Mais il ne cédera pas sur les retraites, il ne cédera pas sur les retraites.
Oui, mais Michel Barnier, lui, il veut quitter, à son âge avancé, son poste en se disant que les Français ont en tête, non pas le fait qu'il a été humilié, mais qu'il est allé jusqu'au bout de ce qu'il devait faire pour faire passer ce budget. Lui, c'est son objectif derrière.
Quitte à céder là sur les retraites, sur la décession.
C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'il reste deux jours.
Okay,
et de toute façon, la censure n'a pas été votée. Laissons les choses aller jusqu'au bout.
Jacques, soyons cohérents avec votre analyse.
Attendez, je suis d'accord avec vous. Il y a très peu de chances. Mais il reste encore deux jours, voire trois, ça peut être joli.
Soyons cohérents.
Vous savez comment ça se passe, les accords de majorité, ou quand on négocie des accords électoraux. Jusqu'à quasiment la dernière minute, on voit son nom.
C'est pas cohérent avec votre analyse de départ. Votre analyse de départ, c'est qu'il y a l'avant et l'après réquisitoire. Et moi, je pense que depuis le réquisitoire, dans la tête de Marine Le Pen, il y aura censure.
Je suis arrêté. Il y aura censure. Je fais la version
avant. Avant le réquisitoire, c'est évident qu'il n'y avait pas censure. Mais là, ils ont décidé. En plus, ils l'ont décidé politiquement entre eux, en réunion de groupe. Donc, moi, je vois mal comment une décision politique comme ça, vendue de façon très verticale dans ce parti, va être remise en cause. Et par ailleurs, Barnier, comme vous l'avez dit, n'a aucun intérêt à céder sur les retraites s'il veut sortir par le haut dans l'histoire politique.
Bien sûr.
Véronique.
Moi, j'ai envie de dire ce que disait Coluche, l'avenir appartient à celui qui a le veto.
Celui qui a le veto.
C'est un peu ce qu'on pourrait croire. Non, mais sérieusement, je pense que faudrait arrêter un peu ces intérêts électoralistes, parce que finalement, ce n'est que du petit jeu. Et quand on parle des Français, quand on dit on va faire ce qu'attendent les Français, mais les Français n'attendent pas exactement ce qu'on voudrait faire croire. C'est-à-dire que là, on leur propose finalement, si le budget passe pas, c'est tant mieux, parce que ce sera des dépenses en plus, alors qu'on avait dit convaincu, je pense qu'il fallait diminuer ces dépenses, parce qu'on est quand même, on a des politiques qui sont, je vais dire un mot poli, addicts à la dépense publique, qui ne veulent pas augmenter les impôts, parce que c'est trop douloureux, il y aura toujours quelqu'un qui sera pénalisé. Et donc ici, on voit bien que on ne peut pas se départir de cette idée. Le discours du Premier ministre, je reviens, était assez cohérent, qui disait finalement, les Français vous regardent, les Français attendent qu'on pense à leur situation, et leur dire, aujourd'hui, on ne va pas vous faire mal, aujourd'hui, on va vous caresser dans le sens du poil, on va vous dire ce que vous attendez à court terme. Mais est-ce que quelqu'un a une considération intergénérationnelle, ne serait-ce que ça, penser à ses enfants? Ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, ce sera deux fois plus difficile de le faire demain. C'est assez simple.
Non, mais il faut arrêter avec le discours austéritaire.
Ah non, c'est pas d'austérité.
Il faut réduire les dépenses au moment où il faudrait engager les dépenses pour la transition écologique.
Non,
le vrai sujet, ce que personne ne dit parmi les commentateurs, c'est que les 60 milliards qui manquent, c'est les 60 milliards de baisse d'impôts qui ont été faits depuis 2017. Et là, les marchés ont applaudi cette affaire-là.
Des emplois aussi, qu'on contribue à la création d'emplois.
C'est la raison pour laquelle les agences de notation sont très sages, parce que elles savent très bien que tout a été fait dans la norme, entre guillemets.
Nathalie,
de ce point de vue-là, moi, je ne pense pas
Nathalie,
que
Nathalie
la
vous
France
répond,
sera dégradée.
Nathalie Janson.
Non, mais c'est, de toute façon, c'est pas, enfin, on ne va pas rejouer le jeu à nouveau. Enfin, un pays comme la France est un pays interventionniste où il y a beaucoup trop d'interventions. Donc oui, on cherche à... Alors effectivement, on n'a pas été très loin dans le programme, dans le plan Barnier, parce que de toute façon, il n'y avait pas de quoi faire une réforme de l'État. Mais clairement, la France a un problème avec le rôle de l'État dans l'économie. Très clairement. Et ce n'est pas de la dépense publique supplémentaire qui va changer.
Ah, ça marche très bien. Le modèle redistributif, il marche très bien.
Super.
Les inégalités de revenus entre les 10% les plus riches et 10% les plus pauvres avant redistribution, c'est 1 à 18. Après redistribution, c'est 1 à 3. Il marche très bien, l'État social. Et c'est bien ça qui vous emmerde, les libéraux. C'est bien ça qui vous emmerde.
Moi, j'ai pas l'impression que tout le monde soit heureux de cette situation.
Vous estimez que ça coûte trop cher.
Mais les Français sont pas très heureux. Moi, j'ai pas l'impression que...
L'Association française d'entreprises privées a décidé de faire sécession quant au financement de l'État social. C'est ça l'agenda qu'il a fixé à Macron. Et c'est ça qui explique la politique budgétaire depuis 2017. Et là, il manque 60 milliards.
Quand je pense qu'il y a quelques semaines, on se disait, mon Dieu, on est parti, on nous a vendu 40 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques, et là on se demande même si on aura un budget dans les temps. Enfin, alors, en l'espace de 3 semaines, c'est incroyable comme la situation dégénère.
Oui, non, tout à l'heure, vous demandiez quelque chose. Je pense que depuis que notre ami Acemoglu a reçu le prix de la Banque de Suède, enfin, on va dire le prix Nobel d'économie, ça sera plus simple. Je crois qu'il faut admettre que les institutions institutions, des institutions que lui appelle inclusives, donc qui sont solides, eh bien précèdent une politique économique et d'autres institutions économiques qui fonctionnent. Donc pas de budget, une Assemblée nationale qui, un, est déraisonnable, deux, infantilise le poste de représentant de la nation, et trois, se venge d'une alliance contre nature qui a été mise en place au lendemain du premier tour des législatives. Hein, parce qu'il y a ça aussi. Et donc, comme le disait Véronique, toutes ces choses-là, eh bien, ça n'arrange pas les fins de mois de la ménagère. Et puis, ça va finir par nous faire voir, ou en tout cas, nous faire percevoir les costumes gris de ces fameux technocrates du FMI, quand même. Alors là, je vais peut-être
on
un
appelle
petit
les
peu loin,
mais... Black, voilà, on les appelle les Men in Black, comme on les a vus.
Bon, les petits hommes en gris, dit... C'est Trump qui dit
On fait une petite pause, 9h30, et puis on continue de parler de tout ça, notamment gouvernement technique, parce que c'est l'expression qui va ressortir. Je voudrais avoir votre avis sur ce qu'on appelle un gouvernement technique d'ici 20h. Et puis Stellantis, bien sûr, on parle de tout ça dans un instant sur BFM Business, 19h30.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h35, on est reparti jusqu'à 20h sans pub. Sans pub avec nos experts Nathalie Janson, Jackie Isabello, Véronique Giraud, mais Ligue Moang Nok. Tiens, je vous fais écouter Michel Barnier. Profitez-en, ça n'a peut-être pas duré. Michel Barnier, donc tout à l'heure à l'Assemblée, qui dégainait le 49.3 pour faire passer le budget de la Sécu. Écoutez.
Je crois que nous sommes parvenus désormais à un moment de vérité qui met chacun devant ses responsabilités. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes.
Voilà, Michel Barnier qui prenait ses responsabilités. On a vu ce qu'il était devenu après. Alors, il y a un terme qui va revenir dans le débat, peut-être dans les prochains jours, c'est celui de nommer un gouvernement technique. Qu'est-ce qu'on appelle gouvernement technique exactement, Véronique Giraud? Mais est-ce qu'un des gouvernements techniques peut bénéficier d'un totem d'immunité dont ne bénéficierait pas un gouvernement orienté
Je pense que ce qu'il fait passer en premier, c'est la gestion, c'est l'aspect très technocratique des choses. Oui. On ne verra plus ce qu'on critiquait il n'y a pas deux minutes, c'est le fait de dire il y a des intérêts particuliers, répondre aux lobbies, à la pression des lobbies, ce qu'on voit systématiquement par les politiques, ce qui est normal parce que généralement si on redétricote à l'envers, le gouvernement il est l'émanation normalement d'une majorité et donc il doit mettre en avant un programme qu'il a présenté et généralement le politique fait campagne sur un programme pour gagner les élections et pour appliquer son programme.
Oui.
Trop souvent on fait campagne avec un programme pour gagner les élections puis après ça s'arrête, donc on n'a pas l'impression que appliquer le programme ce soit vraiment on soit vraiment tenu d'appliquer le programme. Là, l'aspect gouvernement technique, il y a le côté très très techno, donc très très finalement bureaucratique, avec ce qu'on voit un peu, je dirais, du point de vue de Bruxelles. Donc, on va avoir des contraintes peut-être plus fortes imposées. En tout cas, les règles seront posées sans les colorer d'intentions idéologiques. Après, est-ce que c'est mieux? En tout cas, ça aura le mérite d'être clair. Est-ce que c'est plus efficace? Mais là encore, il y aura des intentions. Mais est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'on pourra aller jusqu'à l'action, à la réalisation? Est-ce qu'il y aura un soutien politique et un gouvernement technique? Là encore, on peut se poser la question aussi, parce que finalement, c'est le soutien politique qui entretient la confiance, la crédibilité. Parce que pourquoi Michel Barnier en est arrivé là? Parce qu'il avait peut-être de très bonnes intentions, mais il n'avait pas la confiance. On a l'impression, moi j'ai eu l'impression, par certains aspects, de le voir un peu comme en fin de mandat. On avait l'impression d'une usure du pouvoir à peine commencé. On
avait comme s'il savait déjà que le temps était compté. Voilà, de toute façon, que
le pouvoir était usé.
C'était le contrat de départ. De toute façon, les institutions, elles sont construites comme telles. Il y aura un chef du gouvernement et un gouvernement qui sera responsable devant l'Assemblée. On va bien voir qu'il l'a engagé. Là, il n'a rien. Il a juste engagé la responsabilité de son gouvernement. Et le Parlement décide de lui voter la confiance ou la défiance. Et apparemment, donc il y aurait un gouvernement technique. Mais technique, ça veut dire quoi? Des technocrates qui vont venir expliquer à LFI et au Rassemblement National comment construire un budget.
Il y en a eu quatre. Nathalie nous a regardé pendant la pause. Il y en a eu quatre en Italie.
Et alors, ce qui est très inquiétant, Guillaume, puisque vous posez la question et que c'est très intéressant, on en parlait hors plateau. Moi, je me souviens des analyses des constitutionnalistes au tout début. pas de shutdown, etc. Et plus le temps avance, à chaque fois, je lis des interviews de spécialistes de la Constitution, et à chaque fois, je vois émerger ok, alors c'est pas sûr qu'il y aura un shutdown, mais c'est quand même possible. Ce matin, quelqu'un disait, alors si on n'a pas de PLFSS, eh bien, on ne peut pas augmenter la dette de la Sécu parce que mécaniquement, oui. C'est un petit article dont tout le monde se fout. Dans le PLFSS, on donne à la COS la possibilité de lever de la... Et donc, s'il n'y a pas de PLFSS, on ne donne pas cette autorisation. Ben, c'est exactement ce qu'on reproche aux Américains.
Et on a quelques mois de réserve.
On ne va pas le faire à l'américaine.
C'est-à-dire tout ça pour dire que...
On ne va pas tout arrêter, mais c'est quand même un petit peu inquiétant.
Ne pas voter, ceux qui disent à droite, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, ne pas avoir un budget de voter au 31 décembre, ce n'est pas si anodin que ça, Lim, finalement. On est d'accord ou pas avec ça? Donc, on commence à nous parler des lois spéciales pour faire passer, reconduire les budgets.
Il y a l'extrême gauche. Je vous dis simplement que s'il y a un gouvernement technique, comme vous le dites, il prendra la forme, comme pendant les Jeux Olympiques, d'un gouvernement démissionnaire. Donc, très probablement, ça sera le budget de l'année dernière qui sera reconduit.
Il pourra faire un peu plus gérer les affaires courantes. Parce que gérer les affaires courantes, les institutions définissent ce que vous pouvez faire ou pas faire. Là, ils auront la possibilité quand même d'engager des projets de loi.
Il faut que ce soit voté à l'Assemblée.
Il faut que ce soit voté à l'Assemblée. Marine Le Pen a dit qu'elle voterait les lois spéciales.
Un gouvernement qui gère les affaires courantes ne peut pas présenter un projet de loi.
Nathalie.
Oui, parce que visiblement, il faut quand même que ça passe avant le 19 décembre pour que
Date limite des 70 jours, effectivement, comme ça. Ouais.
Donc, on ne sait pas.
Quand vous entendez dire dans la bouche de certains politiques, ce n'est pas une catastrophe s'il n'y a pas de budget le 31 décembre, Jackie vient de nous expliquer, et des exemples, il y en a beaucoup comme ça à l'appel, c'est pas vrai.
Ce n'est pas des bonnes nouvelles.
Ce n'est pas anodin.
Ça voudrait dire autrement qu'on a des gens qui sont payés toute la journée, que pour certains sont des spécialistes de leur sujet, et donc ils représentent le peuple pour voter des lois, et que tout le monde s'en fout. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut tout ficher en l'air, et c'est un populisme, moi, qui m'inquiète quand les gens disent ça. Quand on voit d'immenses politiques dire c'est pas très grave, il n'y a pas pire populisme que dire des choses comme ça. Les institutions, elles sont importantes, il faut les respecter, elles ont été écrites avec des éminents juristes, et on découvre des petits détails, et les constitutionnalistes les premiers, et je pense que balayer tout ça d'un revers de la main, c'est très inquiétant.
En fait, je pense que là où ils disent qu'en fait c'est pas si grave, c'est toujours pareil, c'est comme les cas d'Italie en Italie ou en Belgique, c'est finalement moins pire que d'avoir un gouvernement qui n'arrive pas à avancer. Enfin, voilà.
Donc, c'est une administration qui va décider dans le troisième sous-sol, et ça, les Français ne veulent pas.
Les marchés, pour l'instant, ne s'affolent pas.
Oui.
Rendez-vous mercredi, si le gouvernement tombe, pour voir comment ça va se matérialiser sur les taux d'intérêt, même sur les actions françaises, sur le CAC 40.
Voilà. Le CAC 40, déjà depuis septembre,
a pas brillé.
C'est-à-dire que là, effectivement, ça n'a pas empiré, mais ça fait déjà plusieurs mois, en fait, qu'on ne brille pas.
Sur l'obligataire, pour l'instant, ça ne s'emballe pas, puisqu'on a connu quand même...
Il y a eu pire,
effectivement. Rendez-vous mercredi prochain. Avec toujours cette question que je posais tout à l'heure, dans quelles conditions allons-nous emprunter l'an prochain les 300 milliards d'euros que nous avons à lever pour financer nos dépenses?
Guillaume, il faudrait lancer une revue de tous les sujets qui vont rester sur le bord de la touche. Je vous donne un exemple. Vous discutez avec des militaires aujourd'hui. Ils vous disent, les politiques en ont plein la bouche de l'économie de guerre. Mais concrètement, cette économie de guerre, que dans les temps anciens on appelait cette économie d'arsenal, ce sont des marchés publics. Ils sont toujours pas passés, les marchés publics, pour faire des drones, pour faire des missiles de moyenne portée, pour adapter l'industrie des drones à une guerre qui
ne veut plus cramer des
avions à 2 milliards de dollars, mais plutôt flinguer 1000 drones à 10 000 euros, comme on l'a vu en Ukraine. Tous ces marchés-là, ils sont absolument pas passés. Ballard, qui est juste à côté, ils vont pas vous faire ça en deux temps, trois mouvements. Ça dépend du gouvernement.
Vous cherchez à me faire dire que le budget l'année dernière était un beau budget, c'est raté.
Ne pas avoir un budget voté au 31 décembre n'était pas quelque chose d'anodin et sans conséquence.
Il n'y aura pas de shutdown. Les fonctionnaires continueront à être payés. Les dépenses courantes seront assurées.
C'est vrai.
Voilà. Sur les taux d'intérêt. Faut arrêter de délirer aussi. Ceux qui disent que la France, c'est la Grèce.
On n'est pas allé loin.
Moi, j'ai été rapporteur au Parlement européen sur la Troïka. Je connais bien la Grèce. Et en 2010, la Grèce empruntait à 30%.
Oui.
La France ne va pas emprunter à 30%.
Personne n'a dit qu'on était la Grèce.
On est au-dessus de 3%. Cet après-midi, c'était 2,9%. Les États-Unis sont au-dessus de 4%. Et ça, personne ne le dit. Donc, l'agence France Trésor, elle continuera.
Qu'il y ait
un gouvernement démissionnaire ou pas, l'agence France Trésor continuera à lever la dette, à la faire rouler à des taux qui sont jugés raisonnables par les marchés.
C'est bien ça le problème, c'est pour faire rouler.
Ça. Eh bien oui, mais tant qu'on emprunte à 3%, les charges de la dette font pas boule de neige. Donc, il faut arrêter de faire ça.
Oui, mais quand on a une croissance, je vous invite à réfléchir sérieusement si vous voulez
vraiment vous attaquer à la cause du déficit, il faut vous attaquer à deux choses. Premièrement, aux baisses d'impôts qui ont été faites et qui font que les recettes induites sont moins importantes. Et deuxièmement, remettre en cause une politique qui n'a pas provoqué les effets escomptés sur l'investissement. Et donc, c'est pas étonnant qu'on ait des objectifs de croissance qui soient pas atteints et que les déficits se creusent. Réfléchissez à ça en économiste. C'est ça le vrai sujet.
Les créations d'entreprises,
et la politique budgétaire qui est menée, celle que vous défendez, n'est pas la bonne. Nous ne sommes pas en plein emploi. Il faut réaliser la transition écologique et là-dessus, il faut de la dépense publique. Mais de la bonne dépense publique.
Ah oui.
Financé par l'impôt juste, et on a une dette qui aujourd'hui nous permet de le faire à des taux raisonnables.
Véronique.
Et j'ajoute que la Banque centrale sait faire en cas de spéculation contre une des dettes de la zone euro.
Bon. Non, mais c'est pas parce que ça ne coûte pas cher qu'il faut s'endetter sans s'endetter.
Aujourd'hui, si. Aujourd'hui, pour faire la transition écologique, si, absolument.
De toute façon, tous les aspects de la transition écologique ont été, pour certains, remis en question. On voit qu'il n'y a pas l'urgence qu'on avait mis en avant. Il y a des priorités qui vont passer avant l'urgence écologique.
Là, c'est terminé.
Non, mais ne prenons que le cas des constructeurs. Enfin, je pense qu'on va y venir après. Mais le tout électrique, les voitures tout électriques, on finit par s'apercevoir qu'on n'arrivera pas à temps à éliminer le thermique et qu'on n'a pas non plus le moyen de protéger notre marché. Donc, il y a des objectifs qui sont posés, mais objectifs posés, c'est pas objectifs réalisés. Donc là, c'est une chose. Et puis, il y a quand même un autre moyen de faire avancer une économie que de tout demander, de tout attendre de l'État. Si l'État libère l'économie, c'est aussi pour la laisser se développer, faire de la croissance.
Les entreprises n'investissent pas en ce moment.
Nathalie, pour là-dessus.
Oui, d'ailleurs, il y a un beau autre exemple, puisque en fait, il y a des études qui ont été menées récemment sur l'impact en fait du programme Trump de 2016. Et effectivement, il montre bien que la baisse des impôts a provoqué une hausse de l'investissement, qui est sans doute un facteur explicatif de la hausse de la productivité aux États-Unis très forte que nous n'avons toujours pas, et je ne pense pas qu'on l'aura d'ici peu.
Bien, voilà pour le budget, et puis rendez-vous mercredi pour voir ce qui s'en suivra. Effectivement, on va dire un mot de Carlos Tavares vite fait, donc démission, communiqué annoncé hier soir, avec surprise évidemment dimanche soir, départ avec effet immédiat de Carlos Tavares, le DG. La bourse n'a pas apprécié du tout, puisque le titre a perdu 6,3% ce soir à la Bourse de Paris. Carlos Tavares s'en va, les marchés sont déçus. Ce qui s'est passé dans les dernières heures pour que ce départ s'accélère, on ne le saura peut-être jamais. Carlos Tavares a-t-il commis un péché originel, une faute majeure?
On saura tout.
Trop ambitieux sur les marges.
Parce qu'on vient de passer d'un sujet à l'autre. Ouais. On va parler désormais de quelqu'un qui a récupéré une entreprise qui était dans une situation déplorable, qui avait été victime de crise. Et aujourd'hui, on va dire, voilà ce que ça fait d'être trop rigoriste en matière de gestion des budgets. C'était un cost killer sans doute un peu excessif, mais on est passé d'un État qui ne sait pas se désendetter et qui fait, la seule chose qu'il fait avec talent, c'est de faire de la dette, à quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise mondiale et qui a, lui, trop bien géré son entreprise. Ce qui est assez étonnant quand même, et quelque part c'est un petit peu rassurant pour un modèle de capitalisme qui repose sur la valorisation des talents, des savoir-faire, de l'employabilité dans les entreprises, c'est que finalement, eh bien, le conseil d'administration a sans doute dit on a fait des profits, eh ben, on est en train de revenir, parce que cette personne-là fait partir des talents par un management qui est devenu insupportable. Il y a quelques années, c'est un argument qu'on n'aurait pas vu, et je trouve ça bien. Ben voilà, ce capitalisme, eh bien, il se met au niveau parce qu'il a des enjeux très importants à répondre. La France, qui a des enjeux de développement de l'intelligence artificielle, de son industrie de la défense, de son éducation. Alors, elle devrait faire la même chose. C'est intéressant.
Comme trois dirigeants ces derniers mois qui sont partis de Stellantis, qui sont partis chez BYD, le concurrent chinois quand même. C'est pas anodin. Oui, Nathalie.
Disons que oui, on voit que apparemment, moi je ne suis pas une spécialiste de Stellantis, je vais bien me garder de donner des leçons, mais effectivement, tout ce qu'on a pu voir, c'est que sa stratégie a eu des limites, c'est-à-dire qu'il y a eu des effets positifs de toute façon. Il a été assez salué pour ça, pour avoir permis au groupe de retrouver quand même une position mondiale assez importante. Bon, visiblement, sa méthode était un peu sèche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de.
Darwinienne, il dit.
Voilà. Non, et puis c'est surtout que ça n'a pas généré en fait d'expansion, c'est-à-dire que ça a beaucoup déçu de gens à l'intérieur qui sont partis et il n'a pas su en fait insuffler un autre modèle.
C'est vrai.
Je pense que c'est sa stratégie qui est quand même en fait décriée ici.
Conclusion, tout est une question d'équilibre, Lim. C'est ce qu'on va retenir finalement dans cette histoire. Comparatif avec Michel Barnier, la situation.
Si on prend un peu de recul, on a changé de capitalisme. Du temps du capitalisme dit managérial, les marchés n'auraient pas imposé la démission du principal manager qui les aurait convaincus que sa stratégie est la bonne, d'autant que
Elle n'était pas la bonne.
Les entreprises, le capital était structuré par des actionnaires de référence qui en l'occurrence sont Fiat et Peugeot.
Oui.
Là, la différence, c'est qu'on est dans un autre capitalisme, un capitalisme financier où on a toujours les mêmes actionnaires de référence, mais qui ont intériorisé la logique des investisseurs institutionnels qui maintenant forment la moitié du capital de Stellantis. Et la norme aujourd'hui, c'est d'imposer ses objectifs aux managers. Et au moindre désaccord, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé cette semaine et qui fait que
ça
a précipité parce qu'il devait rester un an de plus.
Oui.
Bon, là, je ne sais pas 2026. Ce qui s'est passé, mais apparemment, il y a eu un gros désaccord avec le conseil d'administration et ils ont décidé, et c'est le capitalisme financier, de débarquer le manager.
Véronique, un mot sur le cas Stellantis.
Le cas Stellantis, il est particulier parce que c'est une. Enfin, Stellantis comptait encore parmi les trois premiers mondiaux en termes de vente au même niveau que General Motors, je crois. Oui. Donc, c'est pas complètement mauvais. La croissance du chiffre d'affaires l'année dernière, je crois qu'elle était deux fois moindre que celle de Renault. Donc, ça, c'est un problème, on voit du point de vue franco-français. Mais il faut savoir que la construction automobile, c'est un secteur très oligopolistique. Donc, forcément, on concentre. Mais là, à force de concentrer, je ne sais pas ce qu'il va rester. Et on ne protège pas les marchés. De compétences et d'évolution que l'on veut faire. Donc, si on veut innover, il faut quand même un temps protéger l'innovation pour pouvoir ensuite redémarrer. Si on ne protège pas, et là, on n'a pas protégé. Enfin, on laisse les batteries chinoises arriver sur le marché.
Allez, voilà pour le cas Stellantis. Donc, forte chute de l'action, plus de 6% ce soir à la Bourse de Paris, 19h51. C'est l'extra time pour terminer, comme tous les soirs. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes. Tout ça est laissé, bien sûr, à votre totale discrétion et à votre volonté. Qui va commencer? Lim, allez, allons-y. 30 secondes, Lim, c'est à vous.
Ah bah, c'est un coup de cœur pour la conférence à laquelle j'ai participé ce matin sur les exonérations de cotisations sociales. C'est organisé par l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Et enfin, il y a un débat serein entre les économistes, les syndicalistes et les entrepreneurs pour trouver le bon dosage des exonérations de cotisations sociales, parce qu'on est en train de se rendre compte que ça provoque
des effets.
Pas toujours des effets sur l'emploi, ça provoque des trappes à bas salaire et ça peut détériorer la qualité de l'emploi. Donc, le bienfait du débat ouvert par Barnier, c'est que tout le monde se reparle là-dessus.
Eh ben voilà, on arrive à se parler quand même quelque part dans ce pays. Le coup de cœur de Lim Wang Nox ce soir. Véronique Jérôme, 30 secondes.
C'est un coup de cœur qui va finir par un coup de gueule, mais après le Black Friday, après le Cyber Monday, je voulais parler du Giving Tuesday, donc demain, la journée du don, et inciter à avoir un peu de considération. Finalement, il n'y a pas que l'État qui peut intervenir, on peut aussi être généreux individuellement. Donc ça, c'est une chose, c'est depuis 2012 que l'on fait ça aux États-Unis, en tout cas en France 2018.
C'est la charité, ça.
Mais cette charité, on aimerait bien, parce que les chercheurs, quand ils s'intéressent à la charité, ils ne peuvent pas avoir, comme en Angleterre ou aux États-Unis, arrivent à sourcer, voir où va l'argent. Oui. Et donc, la Cour des comptes, qui garde très précieusement l'information, pourrait nous dire qu'est-ce qui va en frais de gestion et qu'est-ce qui va vraiment à la cause. Et ça, ce serait bien.
Voilà, coup de gueule qui finit en coup de cœur, effectivement, ou inversement. Nathalie Janson, 30 secondes. Nathalie.
Ah, je vais faire plaisir à Lim. Je vais ressortir mon petit Milei.
Ça faisait longtemps.
Il a fait la une de The Economist. Attention, il
a quand même. Ah oui,
carrément une grande une, puisqu'il y a eu une interview de lui de 30 pages. Donc, ça se lit vite parce que c'est une interview, mais ils ont vraiment fait une interview de fond avec lui, en abordant des points très techniques au niveau économique. Et c'est très décoiffant. C'est du Milay pure souche. Donc, juste le titre, c'était « Mon mépris pour l'État est infini ».
Ah, c'est joli, voilà. Effectivement.
Et voilà. Et donc, il déroule pourquoi, en fait, aujourd'hui, il est à ce poste pour, en fait, dézinguer et remettre l'État à sa place.
Ça a le mérite d'être clair. Jackie Isabello, 30 secondes pour terminer.
Ian Rand a changé de sexe. C'est ça, le truc avec l'actualité. Vous vous souvenez de cet aphorisme de Lénine qui disait les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle on va les pendre. Moi, j'ai vu ressurgir ce sujet, ça m'a étonné. On continue de donner de l'argent à la Chine au titre de l'aide au développement.
C'est vrai?
Un rapport d'un député, Marc Le Fur, absolument, qui n'avait que des chiffres de 2020 parce que l'État, en fait, a fait disparaître ces chiffres dans tout un tas de nomenclatures statistiques. Donc aujourd'hui, le Sénat et l'Assemblée nationale savent qu'on donne de l'argent au titre de l'aide au développement à la Chine. La 7e puissance mondiale continue de financer la 2e puissance mondiale. Et je trouve ça ahurissant quand on voit les débats qu'on peut avoir en ce moment et sur les économies nécessaires.
Pour faire des voitures électriques.
Mais ça, on sait quel niveau est cette aide ou pas? On n'a pas ce chiffre.
Alors, en 2020, c'était 120 millions d'euros.
Ah oui, quand même, oui, c'est comme ça. Alors, oui.
Je ne suis pas journaliste, je ne fais pas complètement
c'est
le boulot.
C'est l'époque où dans les livres de géographie, d'histoire, on considérait la Chine dans les pays en voie de développement encore. Voilà,
et bah, l'OCDE continue de considérer la Chine.
Et bien voilà, tout ça nous laisse bouche bée. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce soir, en tout cas sur le plateau. Véronique Jérôme, polito-économiste, cofondatrice d'Electionscope. Lee Mong-nok, économiste, ancien député européen. Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Et Jackie Isabello, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Merci beaucoup à tous les quatre. À très vite, avec plaisir, pour de nouvelles aventures. 19h55, dans un instant. Tekenco, François Sorel pour vous accompagner. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h en direct, pour de nouvelles aventures. À demain. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.